RCF. Jean-Guillaume Xéry, si l'on entend parfois des critiques s'élever contre le développement personnel ou la quête spirituelle, en leur reprochant d'être déconnecté du réel, désincarné ou nombriliste, le moins que l'on puisse dire, c'est que ces réserves ne peuvent pas vraiment vous concerner. Vous êtes biologiste de formation, mais aussi coach, investi notamment dans la transformation de l'assistance publique et des hôpitaux de Paris. Vous êtes également psychanalyste et auteur de plusieurs ouvrages à la croisée de la spiritualité chrétienne et du développement personnel. Puis pendant des années, avec l'association Aux Captifs la Libération, vous avez été à la rencontre des gens de la rue. Alors à l'occasion à la fois de la sortie de votre nouveau livre aux éditions du CERF, intitulé « La vie profonde », mais également à l'occasion de la parution d'un hors-série Panorama, dont RCF est partenaire, intitulé « Développer son estime de soi avec la sagesse chrétienne », je suis très heureux de vous recevoir dans cette émission Visage. Nous allons voir comment être plus relié à notre intériorité, traverser les turbulences de la vie qui nous épuisent, et puis développer sereinement une meilleure estime de soi. Pourtant, Jean-Guillaume Xéry, en préface de votre livre, vous écrivez ceci. C'est un homme fatigué et en colère qui a écrit ce livre et néanmoins bien vivant. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette introduction qui semble paradoxale et qui ne colle pas vraiment avec l'image du coach serein et qui va nous aider à le devenir?
Les deux ne sont pas incompatibles. Hein. On peut ne pas être en super forme physique, par exemple, et pouvoir être aidant. En l'occurrence, c'est vrai que j'ai écrit ce livre habité par ces deux expériences, une expérience de fatigue d'une part, une expérience de me sentir bien vivant d'autre part. Une expérience de fatigue à la fois physique et mentale, c'est-à-dire physique du corps, physique aussi du psychisme. Et puis me sentir bien. Cette fatigue, en fait, effectivement, vous avez mentionné la colère, c'est d'abord la fatigue parce que j'ai, parmi mes activités professionnelles, des fonctions hospitalières, et que c'est vrai que pendant 18 mois, à l'hôpital, évidemment, on a été très sollicité. Mais au-delà de la fatigue physique, et puis la fatigue liée à un Covid que j'ai fait, qui a été quand même un peu fatigant, mais l'essentiel de la fatigue, c'est d'abord la fatigue liée effectivement à cette colère qui m'habitait, qui m'habite toujours en partie, et qu'il n'y a pas, je crois, d'émotion plus énergivore, c'est-à-dire plus bouffeuse d'énergie, que la colère. Colère devant, finalement, voilà, l'impréparation de notre pays, devant le cirque médiatique de tel ou tel médecin, devant les postures de tel ou tel politique, devant finalement ce qui est devenu ou ce qui est en train de devenir notre système de santé. Finalement, des colères, une colère en tout cas, essentiellement, dont l'objet était essentiellement là. Finalement, voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire de ce système de santé, de l'engagement extraordinaire des soignants pendant la période Covid. Enfin, voilà, c'est tout ça qui me mettait en colère. Et en même temps, c'est ça qui rejoint votre question, cette expérience, malgré cette fatigue physique et aussi mentale, ce sentiment de me sentir bien vivant et peut-être encore plus vivant. Et finalement, c'est un paradoxe, ça n'est pas une contradiction. La contradiction, c'est des choses qui ne sont pas compatibles entre elles. Or là, c'est prendre à l'expérience que, bien oui, on peut se sentir bien vivant au fond, et en étant fatigué. Finalement, il y a des personnes qui vivent ou qui traversent la maladie, qui font cette expérience. Ils ont une maladie du corps, et malgré tout, au fond d'eux, ils se sentent vivants.
Voilà. Et alors justement, cette vie profonde, elle s'enracine où? Dans quoi? C'est une dimension spirituelle.
Oui, dans la vie spirituelle, c'est-à-dire que si je repars un peu là de cette expérience que j'essaye de finalement de relater, hein, la fatigue physique, elle est en lien avec la santé du corps, la fatigue mentale avec liée à la santé mentale, la santé psychique, et puis effectivement ce sentiment de se sentir vivant, ça renvoie à la vie spirituelle. Hein, c'est ce registre de la vie spirituelle finalement qui nous donne cette vitalité profonde, cette vie profonde. Donc là, on est effectivement dans l'étage le plus profond de nous-mêmes, qui est celui, c'est-à-dire, dans lequel finalement la vie, avec un grand V, nous est donnée. Pas simplement notre vie physiologique ou notre vie psychophysiologique, mais notre vie profonde. Et c'est là, effectivement, où il n'y a pas de contradiction. On peut être finalement fatigué dans son corps, finalement, même l'expérience de la vieillesse. On peut commencer à vivre la vieillesse et en même temps vivre de cette vitalité profonde.
Alors cette vie profonde, nous allons la regarder ensemble à partir du livre que vous venez de publier aux éditions du CERF. Mais je le disais en commençant, nous avons monté ce partenariat aussi avec Panorama sur la notion de l'estime de soi. Et je profite de votre présence pour mieux comprendre cette notion d'estime de soi aujourd'hui. Vous êtes coach, vous participez à ce mouvement qu'on appelle d'une certaine manière le développement personnel. Il y a, notamment chez les chrétiens, une méfiance vis-à-vis du développement personnel, une attitude que l'on trouve souvent très égocentrique. Comment, vous êtes très à l'aise avec cette dimension-là de développement personnel qui contribue à une certaine estime de soi ?
Oui, en effet, dans certains milieux, cathos ou pas, mais en effet, dans le milieu catholique en particulier, il y a une espèce de méfiance, voire d'appréciation négative, ce qui n'est pas tout à fait pareil, hein, mais les deux, en tout cas, peuvent être relevés dans le milieu catho quant à l'estime de soi. Voilà. Égoïsme, égocentrisme, autocentrement, nombrilisme, etc. Or, en fait, il me semble, dans cette affaire-là, je suis coach, je suis aussi psychanalyste, et donc, du coup, j'ai forcément une lecture, un peu en contrepoint de cela. C'est-à-dire, je trouve que dans tout cela, c'est intéressant, mais on va un peu trop vite dans des considérations de nature morale. Or, le narcissisme, pour un psychanalyste, c'est d'abord une réalité en tant que telle. C'est-à-dire, le narcissisme, il est d'abord ni bon ni pas bon. C'est d'abord une réalité psychique. Voilà.
Il existe.
C'est comme si on disait, non, mais en fait, les bras ou les jambes, c'est pas bien. Mm-hmm. Bon, les bras ou les jambes, c'est pas bien, tout dépend de ce que j'en fais. Bon, voilà, mais c'est d'abord une réalité. Voilà. Bon.
Le narcissisme. Nous sommes tous narcissiques à un certain point.
Alors, je ne dirais même pas ça. Je dirais que, finalement, nous avons besoin d'un certain narcissisme pour exister. Le narcissisme, c'est d'abord ce qui va me permettre, en fait, de construire la conscience de ma propre identité. Ce qu'on appelle narcissisme primaire dans le langage psy. Puis après, il y a un narcissisme secondaire qui est finalement la reconnaissance de l'identité de l'autre, c'est-à-dire de l'altérité. Donc, si il n'y a pas un narcissisme primaire suffisamment consolidé, finalement, je n'ai pas simplement ce sentiment juste d'être, d'exister. Et si le narcissisme secondaire n'est pas lui aussi suffisamment constitué, je ne suis pas capable, finalement, d'être engagé, d'être impliqué dans des relations où il y a une véritable altérité. Donc, le narcissisme, c'est d'abord, finalement, une réalité psychique qui me permet d'être à moi-même et d'être à l'autre, et donc d'être au monde. Ça, c'est la base. Après, il y a autre chose qui est, le type de personnalité. Quand on dit qu'effectivement quelqu'un est trop narcissique, finalement c'est quelqu'un, je le dirais autrement, d'égocentré, d'autocentré, de tourné vers soi. Et là effectivement on peut se dire que ça n'est pas bon pour le coup, pour le développement de sa propre personne. Je dis pas, pour ne pas paraphraser développement personnel, mais pour sa croissance personnelle. Finalement, tout nous dit, la psychologie, les spiritualités au pluriel et en particulier la spiritualité chrétienne, que la croissance d'une personne passe par justement l'ouverture de cette personne à autrui.
Visage, l'expression de l'être.
Jean-Guilhem Xéry, pour développer une juste estime de soi, c'est-à-dire pour apprendre à s'aimer humblement soi-même, pour paraphraser, je ne sais plus si c'est Bernanos ou Claudel, la grâce est d'aimer son prochain, la grâce des grâces est de s'aimer humblement soi-même. Que faut-il faire ? Vous avez tout un chapitre sur s'aimer dans votre nouveau livre. Comment s'aimer humblement soi-même ?
J'aime beaucoup cette phrase que vous énoncez donc de Claudel ou de Bernanos. Je l'ignorais.
Si les auditeurs peuvent me le préciser, qu'ils n'hésitent pas à m'écrire. Je ne sais pas de qui elle est. C'était Paul Baudiquet, le poète, qui m'avait donné cette phrase et j'ai oublié l'auteur.
Elle est très belle, en tout cas, elle me parle. En fait, il y a deux risques avec le narcissisme. Hein. On peut fonctionner en mode hypo ou en mode hyper. Le mode hypo-narcissique, c'est finalement je me dévalorise, je suis nul, de toute façon j'arrive à rien, et puis c'est pas étonnant que de toute façon que personne m'appelle, que personne prenne des nouvelles, que ainsi de suite. La désestimation, la mauvaise estime de soi, et puis inversement, il y a aussi de l'hyper-narcissisme, quand je la ramène tout le temps. Voilà, je la ramène tout le temps sur moi, sur mes succès, mais aussi sur mes soucis, enfin ainsi de suite. Et en fait, il y a des personnalités qui peuvent être tout l'un ou tout l'autre. Et dans ces cas-là, ce sont les personnalités qui prennent cher et leur entourage prend encore plus cher. de vivre avec quelqu'un qui est tout le temps en mode hyponarcissiste, c'est-à-dire tout le temps en train de se dévaloriser, finalement, c'est juste un enfer pour tout le monde, pour la personne qui se dévalorise, mais aussi pour l'entourage.
Oui, mais vous le savez bien, dans la tradition catholique, on l'a presque mis en exemple, au nom de l'humilité, au nom d'une grande
simplicité. C'est pour moi une grave confusion. Une grave confusion. L'humilité n'est pas de se sous-estimer ni de se mésestimer. L'humilité, c'est juste de se reconnaître infiniment petit devant l'infiniment grand de la grâce. Infiniment petit devant la vie avec un grand V qui m'est donné. Devant la petitesse de la réponse que je peux donner justement à cet appel. À donner cet appel à la vie. Ça, c'est l'humilité. Ça n'a rien à voir avec une dévalorisation de soi-même. Ou au contraire, la dévalorisation de soi-même, elle est toujours tournée vers soi. Alors que l'humilité, telle que je viens de l'énoncer là, elle est au contraire tournée vers la vie, en fait, qui nous est donnée, justement, pour qu'on puisse aussi, à notre tour, la transmettre, la faire circuler, etc. Donc l'humilité, en fait, elle n'est pas tournée vers soi, malgré les apparences. Hein? Alors que la dévalorisation de soi, elle est, comme son nom l'indique, encore tournée vers soi. Donc on peut se donner comme ça des bons airs d'humilité, mais ce n'est pas en se dévalorisant, en fait, qu'on est humble. On est humble quand on se tourne et qu'on se reconnaît petit devant la vie qui nous est donnée pour la redonner encore plus.
Mais vous le dites très bien dans votre livre, on est parfois très mal envers soi-même parce qu'on a été dévalorisé toute son enfance, dévalorisé par ses parents, dévalorisé par ses frères et sœurs. C'est dur ensuite de gagner en estime de soi.
Il y a des déterminismes psychologiques qui sont évidents, hein, c'est-à-dire effectivement un environnement familial, effectivement qui a passé son temps à nous dévaloriser, des rivalités entre frères et sœurs, ou bien même entre parents et enfants, entre père et fils par exemple, des rivalités conscientes mais parfois inconscientes aussi. Évidemment, tout ça sont des choses qui vont favoriser une mésestime de soi. J'ai mes estimes, c'est-à-dire soit en négatif, soit parfois aussi en positif pour essayer de compenser. Mais de la même façon d'avoir été trop valorisé parce que, par exemple, on est l'aîné de la famille ou au contraire parce qu'on est le petit dernier en fonction de la problématique personnelle de ses propres parents et de leur place dans la fratrie, etc., on peut être hyper valorisé, ce qui va justement ne pas être forcément plus facile à vivre. Donc, important de prendre justement conscience de cela, de voir dans quel environnement, quelles ont été les projections qui ont été faites sur nous, toutes ces injonctions explicites ou implicites, et à certains moments, peut-être qu'un travail psychologique peut aider à cela. Et puis après, il y a quand même aussi comment je me situe à l'autre, et puis il y a aussi à un moment donné comment je me situe par rapport aux autres, dans le regard que je porte aussi sur moi, avec une certaine bienveillance. La première bienveillance, elle est d'abord vis-à-vis de soi-même. Ça veut dire quoi d'être bienveillant vis-à-vis des autres si je ne suis pas vis-à-vis de moi-même? Et là, il me semble qu'il y a un peu une pédagogie qui se fait dans les deux sens. C'est-à-dire que d'apprendre à être plus bienveillant, plus charitable, plus miséricordieux, plus juste avec ce que ça représente de justesse et de justice avec l'autre, ça m'aide à l'être avec moi-même et réciproquement.
Vous le dites très clairement dans votre livre, vous avez à la fin de chaque chapitre ce que vous appelez des apophthegmes, alors on va le voir, c'est des phrases des pères du désert ou des pères de l'église, des aphorismes, là aussi d'autres petites sentences, et puis vous avez des invitations, vous invitez le lecteur à expérimenter quelque chose très concrètement sur un thème que vous abordez. Et là, concernant s'aimer, vous dites « un juste amour de soi est une des clés de l'amour d'autrui ». En fait, on ne peut pas aimer son prochain si on ne s'aime pas soi-même. Il faut être clair avec ça.
Alors oui, et ça, ce n'est pas une réalité spirituelle, c'est une réalité psychologique. Confère ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour être dans cette altérité, reconnaissance d'une altérité, il faut déjà que moi, je sois. C'est-à-dire pour dire « tu », il faut que je puisse dire « je ». Voilà, je reformule autrement, là, exactement la même idée. Pour dire « tu », il faut que je puisse dire « je ». Et c'est ça, la fonction du narcissisme primaire, au sens psychique du terme, c'est ma capacité à dire « je ». Si je dis « je », c'est parce que mon narcissisme est suffisamment constitué. Et donc, dans une perspective, pour le coup, spirituelle, de vie profonde, l'enjeu de s'aimer soi, c'est bien sûr de pouvoir mieux aimer l'autre, mais il y a une deuxième chose que je développe un peu dans mon livre, qui est justement d'aimer aussi la vie en soi. La vie avec un grand V. La vie qui circule en nous. La vie qui nous a été donnée, qui nous a été communiquée. Celle dont je ne suis pas à l'origine, car en réalité, nul d'entre nous, nul humain, n'est à l'origine de sa propre vie.
Donc là, c'est renouer avec une dimension spirituelle. Parce que pour revenir au développement personnel aujourd'hui, on le voit bien, il y a un développement personnel qui est laïque, tout ce qui est de plus laïque, s'appuyant sur des connaissances scientifiques, psychologiques, mais pas ouvert sur une dimension de transcendance. Vous, Vous rajoutez un élément.
C'est ça que j'ouvre.
C'est la transcendance. C'est-à-dire
de dire, dans ces dimensions d'estime de soi, de narcissisme, il y a ces dimensions psychiques que je rappelle là et effectivement qui sont des données là scientifiques, en l'occurrence de la science psychologique. Pas de souci avec ça. Que le développement personnel explique, je trouve, avec souvent beaucoup de clarté, d'ailleurs. Mais en fait, mon propos est de dire, voilà, s'aimer soi-même, c'est un pour mieux aimer les autres. Mieux être en relation, plus juste les uns avec les autres, puis faire moins peser aussi aux autres, finalement aussi ce que je suis, ce que je porte. Mais il y a aussi une dimension d'aimer la vie qui me traverse. Et ça aussi, c'est quelque chose, finalement, qui est possible quand je m'aime suffisamment moi-même. Et réciproquement, là aussi, plus je suis dans l'amour, la bienveillance, l'accueil de cette vie qui m'est donnée, et plus et mieux je pourrai aussi m'aimer moi-même, m'accepter tel que je suis, parce que finalement il y a quelque chose de plus grand que moi, qui est la vie qui me traverse et qui m'est donnée.
Alors Jean-Guilhem Xéry, à plusieurs reprises, vous avez utilisé cette expression « la vie qui me traverse ». Il y a des gens qui vous écoutent et qui ont une pratique religieuse et qui vont trouver ça naturel. Puis il y a des gens pour qui ça ne parle pas. « La vie qui me traverse », qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est le souffle de vie qui m'anime en tant qu'humain et qui va disparaître à ma mort ? Qu'est-ce que c'est cette vie qui me traverse ? Comment vous pourrez nous aider à la formuler ?
Oui, votre question, Thierry, est une question à la fois, simplissime et redoutable en même temps, justement. Simplissime parce que, finalement, c'est une expérience naturelle qu'on fait tous d'être en vie. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus évident ? On est de l'ordre de l'évidence. Et en même temps, redoutable parce que, finalement, il n'y a rien de plus compliqué que de partager, finalement, ce qui est évident. Mais il me semble, c'est juste cette expérience que... Alors que l'on fait tous, mais que l'on est finalement, et peut-être à l'occasion de cette émission ou autre... invité de faire l'expérience de la conscience d'être vivant. C'est-à-dire qu'on peut être vivant sans être conscient d'être vivant. Et la plupart du temps, d'ailleurs, on fonctionne comme ça. On se lève le matin, hop, on s'occupe de réveiller la maison, des enfants, de soi-même, on fait ce qu'on a à faire, enfin, ainsi de suite. Bon, voilà.
Il faut tomber malade ou être très près de la mort pour se rendre compte à quel point cette vie, finalement, c'est un cadeau et qui est fragile.
Parfois, c'est ça. En fait, mon propos, c'est de dire si on peut éviter ça et s'en rendre compte de ce cadeau qui nous est fait de la vie avant de faire un accident de vie ou de la mort d'un proche, c'est peut-être pas mal, quoi. Et donc, en fait, c'est une interpellation plus qu'une invitation, finalement. Là, une interpellation. Mais soyez conscient, finalement, que vous êtes vivant, point 1. Et finalement, c'est d'abord simplement un peu se poser, quoi. Et à cet égard, la respiration est finalement notre compagne la plus proche qui peut nous aider à nous rendre compte que nous sommes vivants. Simplement sentir ce souffle qui rentre, qui sort, ça n'a rien d'ésotérique ou bizarre, c'est juste quelque chose, et je le dis dans mon bouquin, on ne peut pas faire plus, justement, à la fois physiologique incarné et spirituel que la respiration.
D'où l'intérêt que vous avez pour la méditation et que des millions d'hommes et de femmes découvrent aujourd'hui en pratiquant la méditation de manière la plus simple, s'asseoir et observer l'air qui pénètre par nos narines et l'air qui ressort.
Oui.
Tout ça. Mais certains vont vous dire, à quoi ça sert ?
Mais à quoi ça sert ? Mais à quoi ça sert de sentir qu'on est vivant ? Mais du coup, dans ces cas-là, à quoi ça sert de goûter à la vie ? Enfin, c'est de la même façon. C'est-à-dire, en fait, le propre de la vie spirituelle, c'est que justement, c'est ce qui donne de la saveur à la vie. C'est ce qui donne du goût à la vie. C'est ça, pour moi, la définition, entre guillemets. J'aime bien qu'il n'y a pas de définition à ce qui reste un mystère. Mais une approche de définition. Le propre de la vie spirituelle, c'est que c'est ça qui nous donne de la saveur et du goût. Je peux vivre finalement comme un animal, et ça n'est pas du tout péjoratif dans la bouche. Il y a une part d'animal en moi. Je me lève, je me nourris, je me reproduis, je mange, je dors, j'ai des émotions. Les animaux ont des émotions, pas de problème avec ça. Hein. Je reproduis des modèles, alors qui familiaux, tribaux, tout ce qu'on veut, pas de problème. Ce qui va nous donner de la saveur ou du goût, c'est justement notre vie spirituelle. Voilà. Elle va nous donner du sens, tout ce qu'on veut. Mais elle va nous donner de la saveur et un goût particulier, en tout cas, justement, parce que le propre de la vie spirituelle, c'est que cette part de moi qui est en relation avec un infini. Avec un infini que dans la tradition chrétienne, on appelle Dieu, la Sainte Trinité, l'Esprit Saint, tout ce qu'on veut, enfin bref. Bref, on se comprend, hein. Mais moi, il me semble que l'expérience que l'on fait tous, c'est que nul n'est à l'origine de sa vie. La vie nous est donnée. Elle nous est donnée par nos parents, et puis avant ça, par les parents de nos parents, enfin, et ainsi de suite. Et on peut remonter loin comme ça. Et en fait, essayer même d'affirmer que finalement, la vie est le Big Bang est un hasard, je sais pas quoi, enfin, ainsi de suite, et qu'il n'y a pas de Dieu. Enfin, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je peux entendre ça, voilà. Il n'en demeure pas moins que la vie nous est donnée. À quel moment je prends conscience que la vie m'est donnée, et donc à quel moment je la reçois? Voilà. À quel moment je la reçois? Je reçois finalement une vie que je n'ai pas choisie. En tant que telle, j'ai pas choisi de naître. J'ai pas, voilà. Et en fait, l'enjeu, je pense, de la vie, pour faire que la vie s'humanise en nous, c'est d'accueillir chaque jour et à chaque instant, et c'est finalement ça un peu le parcours que je propose moi dans ce bouquin, c'est d'accueillir à chaque instant cette vie que je n'ai pas choisie. Par contre, je peux choisir de l'accueillir.
Et cette vie qui va s'arrêter un jour, puisque nous savons tous que cette vie, à un moment, va s'arrêter pour nous. Nous allons mourir.
Oui.
Alors, et ça, vous insistez dans votre livre, l'importance aussi de prendre du temps pour méditer, pas d'une manière morbide, mais de méditer sur la mort.
Oui, c'était un grand conseil spirituel des pères du désert, des pères des premiers siècles. Hein. Effectivement, là, ce qu'ils appelaient le souvenir de la mort, la méditation sur la mort. Dans mes ouvrages précédents, j'en parlais déjà. Là, j'y consacre effectivement encore un chapitre entier. Effectivement, rien de morbide. Merci de le préciser, Thierry. C'est quelque chose qui a plusieurs vertus. La première, c'est d'abord de remettre les choses à leur place, de remettre vraiment les priorités. Imaginons, et c'est un travail de l'imagination, j'imagine que là, finalement, ma vie va s'arrêter. Finalement, à quoi je suis vraiment attaché? Qu'est-ce qui a fait vraiment du sens pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire dans ma vie? Le but étant effectivement de se reprojeter dans un présent qui ait plus de sens, qui soit davantage enraciné. Et puis, c'est aussi faire l'expérience, deuxième vertu, de notre caractère éphémère, de notre fragilité. Et puis, troisième vertu pour les pères, dans cet exercice de la méditation de la mort, c'est de m'en remettre justement à une vie qui s'arrête, une forme de vie qui s'arrête, mais quelque part, de s'en remettre dans la confiance, dans l'abandon à ce qui reste un mystère, qui est cette espérance de quelque chose s'arrête, mais tout ne s'arrête pas. Et donc, en fait, c'est là où revenir un peu à ces différents registres qui nous constituent est précieux. C'est-à-dire que, j'aime beaucoup cette parole que disaient les pères, nous allons tous mourir, mais il y a en chacun de nous quelque chose qui peut ne pas mourir. Et ça, c'est fort, parce que je trouve ça extrêmement réaliste. C'est pas cucu les petits oiseaux, on va tous ressusciter, puis il y a un paradis, on sait pas trop ce que c'est, mais on va tous se retrouver avec tous ceux qu'on aime, et puis c'est génial. C'est pas du tout ça. C'est, on va mourir, mais il y a en moi quelque chose qui peut ne pas mourir. Donc on va mourir, c'est notamment notre corps, notre psychisme. Il y a quelque chose en moi et en chacun de nous qui peut ne pas mourir, c'est justement ma vie spirituelle. Non pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle m'a été donnée par un autre. Alors on peut dire par Dieu, moi je dirais par Dieu, voilà. Après, on peut discuter de qu'est-ce que c'est Dieu. En tout cas, cette source de la vie, elle m'a été donnée par un autre avec un grand A, qui, lui, n'est pas de même nature que moi.
Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas cette foi qui est la vôtre, comment vivre avec cette notion d'accueil de la vie pour rentrer dans cette vie profonde vers laquelle vous nous invitez tous, croyants ou non?
Moi, ma conviction, et c'est pas simplement une conviction de croyant, c'est une conviction d'homme qui essaye juste de prendre au sérieux sa vie spirituelle. Vous voyez, je suis prudent, qui essaye. Voilà. Ma conviction, c'est que la vie spirituelle n'est pas le propre des croyants. Mais alors, absolument pas. Absolument pas. Il y a même des croyants qui n'ont pas de vie spirituelle. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Quand il tape sur les pharisiens, c'est ça. Et on en connaît tous. Il y a des croyants qui ont une vie spirituelle extrêmement éclairante, enfin, ainsi de suite. Mais il y a des non-croyants qui ont aussi une vie spirituelle. Parfois, ils en ont conscience. Parfois, non. C'est-à-dire, vivant de ce souffle de vie, le donnant, le répandant autour d'eux.
Alors, qu'est-ce que c'est la vie spirituelle?
Alors, en fait, moi, ma conviction, c'est justement que, en fait, cette vie spirituelle, elle s'acquiert au quotidien, dans l'ordinaire de nos vies. C'est-à-dire, s'imaginer pour moi que finalement, la vie spirituelle, bah, finalement, moi je m'en occuperai quand je serai à la retraite. Bon, je vais prendre 2-3 bouquins, je vais tirer cette affaire au clair. Ou bon, bah, moi j'ai décidé que je vais faire une retraite là pendant une semaine et là je vais, voilà, et là je vais vivre un temps spirituel.
J'aurai
une révélation, ouais. Tac tac. Puis alors, plus souvent on est déçu parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça marche et donc du coup je referme le dossier. Fin de l'histoire. C'est pas ça la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est quelque chose et c'est ça que je propose dans ce dernier livre de façon toute particulière. C'est quelque chose finalement qui nous est accessible à tous dans notre vie quotidienne. La vie spirituelle, finalement, c'est de l'ordre de la vie ordinaire.
C'est ce que vous dites.
C'est
la
ce qui traverse.
La vie profonde est de l'ordre de l'ordinaire.
Exactement.
Donc la vie profonde, c'est la vie spirituelle, en fait.
Oui, la vie profonde, c'est la vie spirituelle, exactement. Mmh. Et en fait, elle nous est accessible. J'allais dire, il suffit de se baisser pour la ramasser. Alors, se baisser, c'est pas physiquement d'incliner son buste pour aller vers le sol.
Ça compte l'inclination, quand même.
Ouais, ouais, mais, et oui, parce que les gestes ont quand même une symbolique. Ouais. En l'occurrence, c'est changer un peu la focale de mon attention. Tout dans notre quotidien, alors tout c'est pour être concret, hein, c'est dormir, c'est manger, je crois que c'est mon premier chapitre, manger, dormir, faire du sport, avoir une activité physique, se mettre en colère, être triste, pleurer, rire, faire travailler son imagination, sa mémoire, travailler, être en burn-out, tout est une occasion d'être vécu en mode spirituel, pour le dire autrement. En fait, on peut vivre les choses simplement avec le registre du corps. Je suis en colère, exemple. Je suis en colère, c'est une émotion très, très corporelle, très incarnée. Hein. Je vais avoir ma tension artérielle qui va monter, j'aurai mes poings qui vont se serrer, je vais peut-être avoir des rougeurs dans le cou ou dans le visage, etc. Je le vis au niveau du corps. Je peux le vivre aussi au niveau émotionnel. Je vais sentir de l'agacement, de la colère, de la révolte, et ça va me prendre la tête au sens où on le dit, et il va peut-être y avoir un passage à l'acte, verbal, physique, etc. Et la plupart du temps, en fait, on s'arrête à ça. Mais, par exemple, la sagesse, justement, des Pères du Désert nous invite à le vivre aussi en mode spirituel. Alors, je ne sais pas si je fais juste le teasing et je m'arrête
Faites
là.
Faites le teasing.
Voilà, on peut vivre.
Parce que là, vous avez énuméré énormément de choses. Voilà.
Mais on peut le vivre en mode spirituel.
On va regarder certains aspects comme ça dans un instant.
RCF.
Jean-Guillaume Zéry, nous poursuivons cet échange autour de votre nouveau livre « La vie profonde, la santé spirituelle au quotidien » que vous venez de publier aux éditions du CERF. Or, vous avez énuméré beaucoup de choses. Effectivement, dans votre livre, vous dites que la vie spirituelle, la vie profonde, elle est de l'ordre de l'ordinaire. Donc, la manière de s'alimenter, on en parle beaucoup aujourd'hui, cesser de manger n'importe comment, être présent à ce que l'on fait quand on mange, c'est plus que se nourrir que de s'alimenter. Vous invitez à bouger également, en tenant compte. Et là, c'est l'homme sensible à la santé qui s'adresse à nous. Bouger dans son corps, c'est disposer son âme. Et puis, vous insistez beaucoup sur l'importance du sommeil. Alors ça aussi, on se dit, tiens, qu'est-ce que le sommeil a à voir avec la vie spirituelle? Même s'il est dit dans un psaume, je crois, Dieu comble son bien-aimé qui dort, c'est ça?
C'est ça, exactement, exactement. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Ouais. Mais sans parler de Dieu, en fait, mon propos, c'est de dire, tout de notre vie quotidienne peut être l'occasion d'une expérience spirituelle, si je veux. Si je veux, mais je peux ne pas vouloir, je peux simplement vivre les choses sur un plan physique, sur un plan émotionnel et puis m'arrêter là. Le sommeil, merci de de nous donner l'occasion d'en parler. Le sommeil, finalement, on ne peut pas faire plus banal, plus quotidien aussi.
Voilà. C'est vital de
dormir. C'est vital, de toute façon on ne dort pas, de toute façon on meurt. Alors je peux simplement considérer que le sommeil c'est un besoin physique. Je suis crevé, voilà, demain j'ai une grosse journée, hop, je me couche tôt, bon voilà, très bien, pas de souci, et c'est heureusement, on prend soin de son corps. Je peux m'arrêter là. Finalement, je peux aller faire un pas de plus et considérer aussi que le sommeil, c'est un temps qui est bon pour le coup pour mon psychisme. Et ça, c'est démontré par la science aujourd'hui. À la fois, ça permet de réguler des émotions, ça permet justement qu'elles puissent aussi quelque part se métaboliser.
Et notamment avec la place du rêve.
Avec la place notamment des rêves, dont on a conscience ou pas, toujours, jamais, enfin ainsi de suite. On sait que c'est aussi comme ça que les processus de mémorisation de ce que l'on vit dans la journée, en fait, ont besoin du sommeil. Donc, il y a tout l'étage mental, psychique, cognitif.
OK.
Et puis, on peut aussi s'arrêter là, mais on peut aussi en faire une expérience spirituelle. Comment est-ce qu'on peut faire une expérience spirituelle du sommeil ? En fait, il se passe quoi quand je m'endors, au-delà de je ferme les yeux, etc. D'abord, première expérience, celle du détachement. Détachement d'abord du bruit, détachement de la lumière, détachement de mes relations, que je dorme seul ou pas, même s'il y a quelqu'un à côté de moi quand je m'endors. Quand je m'endors, de fait, il n'y a plus de relation avec. Donc c'est une expérience de détachement de mes préoccupations, de mes soucis, de mon activité diurne. Donc une expérience de détachement. On peut pas faire juste plus spirituel que le détachement. Quand on entend parler dans le monde du développement personnel du matin au soir sur le lâcher prise de lâcher prise, mais faites d'abord le sommeil, vous avez un exercice à faire à la maison tous les jours. Deuxième expérience qu'on fait, c'est l'expérience de l'abandon. Dans le sommeil, en fait, on s'abandonne, on fait une expérience d'abandon. À quoi ? Eh ben, en fait, au noir, au mystère, à l'inconscience. Hein, à l'inconscience, un-conscient. Il n'y a plus de conscience, je n'ai plus de maîtrise. Expérience de la démaîtrise. Donc, ces expériences, finalement, que je peux choisir de faire consciemment et surtout d'habiter ou pas. Mais alors donc, si effectivement je choisis d'en faire une expérience spirituelle, je peux vivre consciemment, un, ce détachement, deux, cet abandon, cette démaîtrise, et trois, expérience spirituelle. Troisième aspect de cette expérience spirituelle dans le sommeil, c'est l'expérience de m'en remettre à. Je m'abandonne en fait à l'inconnu, au mystère, mais je m'abandonne aussi, pourquoi pas, à la vie qui, malgré ma perte de confiance, dans ce détachement, va continuer à circuler en moi.
Mais alors, je m'adresse au psychanalyste que vous êtes. Qu'est-ce que je fais des rêves ? Parce que la part du rêve est importante. Est-ce que je dois les analyser ? Est-ce que la vie me parle à travers mes rêves ?
Alors, j'y consacre justement un livre, parce que les rêves font partie justement du quotidien. Alors, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en dialogue les sciences les plus modernes aujourd'hui. En gros, les neurosciences, la psychologie et les traditions spirituelles. Ce que j'aime, c'est faire dialoguer tout ça. Et je suis toujours frappé de voir comment les choses s'emboîtent. Elles ne disent pas toutes la même chose, mais comment elles s'emboîtent. Et sur les rêves, par exemple, et vous le verrez en lisant ce chapitre, finalement, les rêves, il y a trois types de rêves. Il y a les rêves qui sont des rêves, alors qui s'expliquent simplement, qui sont des rêves strictement somatiques, c'est-à-dire du corps. Exemple, si je bois un petit peu trop, si j'ai trop mangé, etc. Certains médicaments, là, c'est vraiment, là, le corps vont faire que je vais produire des rêves. Pas forcément de signification particulière à chercher. Il y a des rêves qui sont des rêves, pour le coup, psychologiques. Alors ça, c'était, tous les travaux notamment de Freud et puis d'autres après lui, mais dont on avait déjà connaissance. Hein. Les pères, déjà dans les premiers siècles, Thomas d'Aquin en particulier, un petit peu plus tard, avait beaucoup écrit sur, effectivement, il y a des rêves qui sont produits par notre psychisme. Et là, ça a à voir avec, pour le coup, des conflits intrapsychiques, un dialogue aussi interne, pas forcément des conflits au sens de problème, mais au sens de dialogue intérieur. Et là, effectivement, qui a interprété dans la relation que j'ai à moi-même, aux autres, ainsi de suite. Mais il y a aussi des rêves de nature spirituelle, et là, qui sont plus le fruit d'une inspiration, comme on en voit beaucoup dans la Bible, mais infiniment aussi dans la vie des saints. C'est absolument passionnant de voir comment les saints sont parfois enseignés par leurs propres rêves. Et alors, dans ces cas-là, les rêves, c'est aussi à interpréter, mais plus en mode de, finalement, quel est l'appel ? Mais comme il peut y avoir un appel dans la vie diurne. Et là, ce que recommande la sagesse chrétienne, c'est d'interpréter ses rêves, plutôt de les discerner, ses rêves, comme on discerne un appel, un peu avec les mêmes critères. Donc on retrouve un peu ces trois natures qui nous constituent, le corps, le psychisme et la vie spirituelle. Et que finalement, les rêves, et donc l'âme, hein, et donc on voit que les rêves, finalement, peuvent venir de ces trois parties de nous-mêmes, hein, d'une certaine façon.
Jean-Guilhem Xéry, on avait déjà eu sur RCF des émissions avec vous sur l'intérêt particulier que vous avez sur les pères de l'Église et les pères du désert. Donc, en gros, je dirais ces grandes figures du christianisme avant même la séparation entre les orthodoxes et les protestants. Donc, en gros, on va dire des pères du 3e siècle jusqu'au 6e, 7e siècle. Donc, certains ont eu une vie ascétique, une vie profondément spirituelle au désert. Pourquoi vous vous intéressez autant à, je dirais, le savoir-être de ces hommes en majorité des hommes, et quelques femmes, de cette histoire du christianisme.
Parce que ce sont des connaisseurs de l'âme, incroyable quoi. Et que si, j'allais dire, depuis le 3e siècle à aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, s'il y a bien quelque chose qui n'a pas changé, c'est notre vie intérieure. Quand je dis notre âme, alors après on peut discuter de l'âme, du psychique, etc. Alors, notre vie intérieure, elle n'a pas changé. Nos désirs, nos facultés intérieures, mémoire, notre liberté, notre rapport à l'infini, nos contradictions, nos pulsions, les pères, bah, comme effectivement il y a quelques femmes, mais les pères du désert, comme tout le monde, ils ont été traversés de tout ça, ils sont faits du même bois intérieur.
Et dans la solitude et dans le désert, ils
donc,
ont été confrontés
encore plus
à
exacerbés,
ça. Ah, oui.
Encore plus exacerbés. Là où effectivement ils sont passionnants, et c'est la raison pour laquelle effectivement, je me suis intéressé à eux, à leur vie, à leur enseignement, à leur pédagogie aussi. C'est que, justement, ils ont fait état de tous leurs états d'âme. Au travers, justement, de livres, de témoignages, d'apophtègmes, de verbatimes, de fioretti, peu importe, finalement, les modalités. Mais en fait, pendant plusieurs siècles, ils ont partagé toute leur vie intérieure, et ce qui s'y jouait, ce qu'il y avait de psychologique, ce qu'il y avait de spirituel, de prendre au sérieux les besoins du corps, sans non plus se faire avoir par son corps. Mmh. Et donc, en fait, ce sont des enseignants incroyables et des connaisseurs incroyables, en fait, de ce qu'on appelle aujourd'hui la vie psychique, de ce que moi j'appelle la vie intérieure, rassemblant derrière cette expression, et la vie psychique et la vie spirituelle.
Alors, Jean-Guilhem Zéry, si vous le voulez bien, on va prendre un exemple très concret, qui est à la fois très souvent pointé par ces moines au désert, et qui est complètement présent dans la société d'aujourd'hui, ce que les moines appellent l'acédie, c'est-à-dire un dégoût de la vie. Ils sont là, dans leur désert, depuis 10 ans, 15 ans, et ils en ont marre. Ils ont envie de partir, ils ont envie de tout abandonner. Et puis aujourd'hui, dans notre société, on le voit, il y a beaucoup de gens qui sont dans une tristesse profonde, qui sont un peu dégoûtés de la vie, même certains vont jusqu'au suicide. Alors, qu'est-ce que cette expérience de l'acédie des moines a à nous dire, à nous, hommes et femmes du 21e siècle, fatigués ?
Fatigués, comme vous dites, Thierry. Oui, il me semble que, et c'est un bon exemple pour montrer combien ils sont actuels, c'est-à-dire que l'acédie, c'est quelque chose qui a été mis en évidence et décrit justement par ces pères du désert. J'allais dire travaillé, étudié, mais aussi soigné pendant des siècles et des siècles. Ensuite, ça a été complètement oublié. On commence à en reparler. Et effectivement, je suis en tout cas de ceux, c'est ce que j'essaye de démontrer, qu'il me semble que la maladie aujourd'hui de notre Occident, c'est l'acédie. La maladie, il y en a plein, mais je veux dire, la maladie vraiment principale, c'est l'acédie. Attention, tout désespoir.
On va dire, c'est ne plus trouver de goût aux choses.
Alors, hein, fondamentalement, c'est ne plus trouver de goût, au sens où je vous disais tout à l'heure, c'est en la vie spirituelle qui donne du goût et de la saveur, on ne trouve plus de goût. C'est une anesthésie, finalement, de la vie spirituelle. Une indolence de l'âme. C'est une indolence de l'âme. Alors, ça ne veut pas dire, attention, que toutes les dépressions, toutes les déprimes, toutes les velléités de suicide s'expliquent par de l'acédie. Mmh. Attention, c'est autre chose. De quoi s'est constituée l'acédie ? D'un certain nombre de caractéristiques, et vous verrez qu'elles sont quand même très, très, très présentes aujourd'hui. C'est d'abord ce sentiment, effectivement, un peu de dégoût, de lassitude, de fatigue, de perte de sens, de dans quelle étagère, etc. Bon. C'est aussi, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le bougisme. L'acédiaque, c'est celui qui est instable. Il faut tout le temps que, en fait, il se tient pas à une activité, il n'arrive pas à rester sur une activité. Il faut qu'il change de job, il faut qu'il change de conjoint, de ville, compagne, de compagnon, ouais. De ville, de boulot, enfin ainsi de suite. C'est cette instabilité. Et on voit combien on est là-dedans aujourd'hui. C'est aussi la distraction permanente, l'incapacité à finalement rester concentré sur quelque chose. Bon, je n'ai pas de détails aujourd'hui avec tous les troubles de l'attention, toutes nos addictions aux écrans qui fait qu'on passe de l'un à l'autre, enfin, ainsi de suite. Donc, l'instabilité, la distraction, ce sentiment de perte de sens, perte de goût. Autre caractéristique, c'est un soin excessif qui est accordé au corps. On est obsédé par son corps. Or, on voit qu'aujourd'hui, jamais dans l'histoire de l'humanité, mais jamais, finalement, l'humanité a été autant préoccupée par le corps, en pratique, par le bien-être, par le développement personnel, par...
Oui, mais tout à l'heure, on disait qu'il y a un bon côté de tout ça. et que c'est une bonne chose de prendre soin de son corps.
Oui.
Dans la première partie de votre livre, bien manger, bouger, tout ça, c'est pour prendre soin de son corps.
Oui,
donc il y a
à sa place. Là, en l'occurrence, la cœliaque, c'est un souci excessif, un souci exagéré. Et les moines, dans leur écosystème, racontent ça en disant justement, c'est un moine qui, du coup, pendant des années, a couché sans problème par terre à même le sol. On a affaire à des gens qui vivaient au 4e siècle dans le désert, donc pas de problème avec ça. Et puis tout d'un coup, ah ben non, mais moi, je peux plus dormir par terre parce que finalement, il y a un scarabée qui va me gratter, puis une araignée qui va me piquer, et puis donc, c'est pas possible, et puis ce qu'on mange, c'est pas assez bon pour mon corps, enfin, etc. Un changement d'attitude qui fait que ça devient totalement inadapté. Et puis, il y a aussi... présent dans le tableau un peu ascédique, un caractère accusatoire. La personne qui est dans l'ascédie, en fait, elle est tout le temps dans l'accusation. Et puis, généralement des autres. Alors, dans l'écosystème, c'est le moine, c'est toujours la faute de son abbé ou de ses frères, et c'est pour ça que la communauté a une ambiance pourrie, parce que c'est la faute des autres, bon voilà, ainsi de suite, et que si c'était moi qui étais abbé, bien, ça serait un peu différent. Cette attitude accusatoire, il n'y a quand même pas besoin d'ouvrir beaucoup les yeux pour voir combien elle est répandue dans notre société. Voilà,
les
c'est tout le temps la faute des politiques, des médias, des machins, etc.
Les médias sont tous pourris.
Exactement. Ouais. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, on voit quand même qu'il y a énormément, finalement, de ces symptômes qui constituent quand même un tableau d'ascédie avec fondamentalement ce par quoi vous avez commencé, qui est fondamentalement cette indolence de l'âme, ces pertes de sens, pertes de goût. Et donc là, évidemment, la première chose, c'est d'en prendre conscience et de voir qu'il y a d'abord un enjeu spirituel et que tout ne se règle pas en prenant toujours plus soin de son corps, toujours plus soin de ses émotions, etc. Tout ça, c'est nécessaire. Mais à condition que, un, ça ne soit pas excessif, et que, deux, on prenne soin de, finalement, cet étage le plus profond, le plus vital de nous-mêmes, qu'est notre vie spirituelle.
Mais, Jean-Guillaume Xéry, on en voit vite les fruits, entre guillemets, c'est la tristesse. Quand on est dans la cédille, on est dans la tristesse. Quand on est dans la critique permanente de tous ceux qui nous entourent, on est dans la tristesse.
Dans la tristesse, c'est très juste, hein, dans l'amertume, dans la rancœur. Puis après, à un moment donné, bah, en fait, on lâche l'affaire, quoi. Mmh. Et puis, on en veut à tout le monde. Et puis à quoi bon? Et ainsi de suite. Donc, la CDI est une maladie potentiellement dangereuse. Potentiellement dangereuse. Donc, important d'en prendre conscience pour, de nouveau, s'ancrer, s'enraciner dans une vie spirituelle, comme je dis, enraciner dans la terre et élever vers le ciel.
Jean-Guillaume Xéry, comment gérer toutes ces émotions qui nous traversent? Et là, je m'adresse à vous, le psychanalyste, le coach, l'homme qui analyse profondément la dimension spirituelle de l'être. On est tous traversés par des émotions, beaucoup d'émotions. Des émotions qui vont nous rendre tristes, qui vont le lendemain nous rendre joyeux. On est traversé par des peurs, on est traversé par des colères. Comment faire? Il y a des moments où on a l'impression que finalement on n'est pas nous-mêmes, on n'est qu'une succession d'émotions qui nous traversent.
Oui, rien de plus... pas d'émotions, pas de vie humaine. Hein. Donc, il faut être très à l'aise avec ça. C'est-à-dire, si je dis ça, c'est parce que je reçois... Parfois, je reçois des personnes dont l'objectif, en fait, est d'avoir des émotions toujours totalement égales.
Être zen, comme on dit.
Voilà. Ça me paraît être la pire des choses. Quoi. La pire des choses. On n'est pas constitué de cette façon-là. Et viser à l'impassibilité des moines, ok, bon, c'est le boulot d'une vie entière, et il n'y en a quand même pas beaucoup qui sont arrivés à cette impassibilité. Et je ne suis pas sûr que ce soit un objectif très sain, S-I-N, pour beaucoup de monde. Donc c'est d'abord, justement, assumer qu'il y ait non pas du yo-yo émotionnel, mais qu'il puisse y avoir des oscillations, qu'à certains moments, on puisse être plus enjoué ou à d'autres plus triste, peut-être parce que c'est la vie, mais peut-être aussi pour des raisons physiologiques, hormonales, enfin, ainsi de suite.
Vous voulez nous dire qu'il y a des tristesses qui sont nécessaires, qu'il y a des colères qui sont nécessaires.
Alors,
parce que vous, c'est un peu ce que vous dites dans votre livre.
Alors, dans mon livre, en effet, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, je pense que, par rapport à votre question, comment faire avec ces émotions? Je pense qu'il y a une première grille de lecture. Enfin, premier point, c'est d'abord accepter d'avoir une vie émotionnelle. Mmh. Et comme toute vie, eh ben, c'est vallonné, quoi. Première chose. Deuxième chose, assumer ça. Assumer ça. Mais même dans la joie, je suis vivant. Mmh. J'éprouve des choses, je suis vivant. Voilà. Bon. Même si c'est pas drôle, mais encore une fois, ça peut ne pas être drôle, et un signe que je suis vivant. Deuxième chose, c'est finalement comprendre de quoi il s'agit. Les émotions, elles surgissent pas non plus par hasard. Alors, il peut y avoir des raisons physiologiques, mais pour les raisons psychologiques, de voir qu'est-ce qui m'a mis en colère. J'évoquais tout à l'heure, moi, ce qui me mettait en colère avec cet épisode Covid. Qu'est-ce qui m'a rendu triste, en fait? Qu'est-ce qui me fait peur? Ou au contraire, qu'est-ce qui m'a apporté de la joie? Mais être lucide avec ça, et sans, encore une fois, sans être... Non, oui. D'abord, sans ce jugement. Mmh. Qu'est-ce qui a généré cette émotion? Mmh. Qu'est-ce qui l'a produit?
Alors, prenons cet exemple qui est très concret, très intéressant.
La colère.
C'est la colère. Vous êtes face, en tant que responsable des hôpitaux de Paris, vous êtes face...
Oui, enfin, je ne suis pas tout seul responsable.
Oui, mais bon, vous participez aux hôpitaux de Paris. Et vous êtes face, aujourd'hui, à ce qu'on appelle vraiment la crise au sein de l'hôpital public de France. Et ça vous met en colère. Comment vous gérez ça, vous, personnellement, avec cette dimension spirituel que vous essayez de développer dans vos écrits et dans votre vie.
Oui.
Alors prenons cet exemple.
Mais très bon exemple. Premier étage, donc un étage psychologique, ensuite un étage spirituel. Mmh. Premier étage psychologique.
Non, avant psychologique, c'est du concret. C'est très concret. Aujourd'hui, les hôpitaux en France vont mal. Les hôpitaux publics vont mal.
J'éprouve de la colère.
Mieux que quiconque.
J'éprouve de la colère.
Je vais faire le français là. Alors. Ouais. Nos politiques n'ont rien fait depuis des années pour sauver l'hôpital public. Voilà.
Déjà, j'essaie justement de voir en fait ce qui me met en colère. Au-delà de, ça me met en colère de voir comment on s'est trouvé démunis, etc., comment on l'est encore aujourd'hui. Au-delà de ça, qui est plus une indignation. Au-delà de ça, en fait, c'est quoi le motif de cette colère? C'est quoi? Qu'est-ce qui me met en colère? De toute façon, là, c'est une réponse plus personnelle que chacun est invité à faire par rapport à ses émotions. Au-delà de, mais est-ce que c'est le bazar parce qu'on n'a pas anticipé? Ok avec tout ça. Mais de façon un petit peu plus profonde. En fait, qu'est-ce qui, moi, me met en colère? De façon, qu'est-ce que ça vient, justement, toucher comme besoin, comme désir, mais peut-être aussi comme, justement, difficulté personnelle, comme chose que je n'ai moi-même peut-être pas su gérer, résoudre à d'autres moments de ma vie? Voilà. À un moment donné, cette exploration de qu'est-ce que ça vient toucher? Elle est nécessaire, elle est souhaitable, elle est bonne. Et parfois, on a besoin d'être aidé, peut-être par un psy, mais peut-être simplement juste d'une oreille bienveillante, d'un ami, d'un proche, d'un conjoint qui ne va pas être tout de suite dans le jugement, dans la réassurance, etc. Juste, on a besoin souvent d'une oreille qui nous sert un peu de miroir, j'allais dire, pour identifier ce qui, en profondeur, nous met en colère. La plupart du temps, la colère, elle a un fond qui justifié. Et ça, la sagesse le dit vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des colères qui sont vraiment justement justifiées.
Bah quand on est face à une injustice, on peut se mettre en colère. Et on parle de sainte colère, oui. De saine colère.
En tout cas, voilà, moi je suis plutôt sur les saines colères, saintes, peut-être, mais en tout cas je ne me sens pas le fait de de le décider. Mmh. Mais en tout cas, saine. Je cite dans mon livre une phrase que je trouve très éclairante de Mère Teresa, qui dit, qui pour le coup elle est sainte, et qui dit, moi quand je vois tout le gaspillage, elle parlait quand elle était à Calcutta, moi quand je vois tout ce gaspillage, je n'en suis pas fière, mais je ne peux pas m'empêcher de me mettre en colère. Voilà. Je n'en suis pas fier, mais je peux pas empêcher. Ça, c'est une réaction saine. Elle le constate, elle n'en est pas fière, elle s'en vante pas, mais c'est comme ça.
Et parce que pourquoi? C'est devant le gaspillage. Parce que j'observe ça et je prends conscience de ma colère, je prends une certaine distance, je prends du recul et je ne suis pas rongé, détruit par ma colère.
Déjà, j'y amène de l'intelligence. Intelligent, je parle pas du QI, mais justement de la compréhension, en fait. Voilà. Et ça, c'est essentiel. C'est pour ça que je dis, il faut pas craindre d'aller voir ce que ça vient me toucher en moi. Mmh. La deuxième chose, me semble-t-il, c'est d'apprendre à en gérer les excès. Parce que finalement, la colère, comme je disais tout à l'heure, ça peut nous entraîner un passage à l'acte. À des paroles qu'on va regretter, à des paroles qui vont détruire quelqu'un en face, voire à des actes physiques. Et là-dessus, j'allais dire, la psychologie un peu moderne nous donne quand même des outils, même pas des pistes, mais des outils pour apprendre un peu à gérer la colère. Exemple, si je sens que je vais dire quelque chose qui va dépasser ma pensée que je ne voudrais pas, etc., eh bien, par exemple, le développement personnel là-dessus peut être aidant. Je peux prendre Une profonde inspiration, garder la respiration quelques secondes, expirer lentement et puis refaire lentement cet exercice. Je peux fermer les yeux, imaginer un sablier par exemple, et puis imaginer ce sablier en comptant de 30 à 1, ce sablier qui s'écoule de 30 à 1. Pourquoi ? Parce qu'on sait que souvent les accès un petit peu de colère, finalement ça dure quelques secondes. Voilà. Je peux, en pensant à ma colère, essayer de penser à toute autre chose pour faire une diversion mentale. Ça n'a rien d'ésotérique, hein. Tout ça c'est démontré par les neurosciences et ça marche. Donc il y a ça aussi pour gérer les excès. Donc amener de l'intelligence, qu'est-ce que ça vient toucher ? Deuxièmement, essayer de gérer les excès si je suis pris dans les excès, ce qui n'est pas forcément systématique. Hein. Et je donne plusieurs pistes dans mon bouquin. Et puis troisième aspect qui est plus spirituel, c'est comment faire pour, vous disiez, ne pas être rongé par exemple par la colère, c'est comment faire pour qu'une émotion, quelle qu'elle soit, ne prenne pas toute la place. Et ça, c'est du registre spirituel, c'est comment je fais pour équilibrer. Une émotion, encore une fois, elle est à assumer, elle n'est pas à refouler, à faire disparaître et à dire « mais non, mais moi je suis très gentil, il ne faut pas que je sois en colère, je ne suis pas en colère, etc. etc. »
Et ne pas culpabiliser face à la colère.
Et ne pas culpabiliser, une émotion, on ne culpabilise pas. Après, on peut discuter de ce qu'on en fait. Et en l'occurrence, le vrai sujet sur un plan spirituel, c'est comment j'équilibre cette émotion. J'y ai amené de l'intelligence, je comprends pourquoi je me suis mis en colère, j'essaye d'en gérer les excès, mais comment je l'équilibre ? L'équilibre, c'est comment faire pour qu'elle ne tienne pas toute la place. Et là, en fait, la sagesse chrétienne est très aidante. Elle nous dit, dans l'exemple de la colère, par exemple, c'est quoi les contrepoids, les deux contrepoids de la colère ? Contrepoids au sens, voilà, d'arriver à équilibrer les choses. Et c'est intéressant, c'est pas la faire disparaître, parce qu'elle est bonne. Elle peut être bonne, elle peut être justifiée, elle peut être un moteur. Mère Teresa, ça a été un moteur pour elle de voir ce gaspillage. Donc, les deux contrepoids, c'est quoi ? C'est un, le service, la fraternité, la solidarité, le service, et deux, la douceur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans le registre de « faut être gentil, parce que quand je me suis en colère, ben, je vais me faire pardonner parce que ce n'est pas bien ». On n'est pas du tout là-dedans. C'est au contraire, je suis pris par la colère, au plus profond de moi-même, et là, je pose un choix délibéré, conscient, qui me coûte, je vais quand même poser un geste de service. Voilà. C'est une façon de résister justement à la colère et de dire « je ne vais pas me laisser emporter par elle ». C'est pas « je la supprime », c'est pas « je l'annule ». C'est « je reprends le contrôle et je ne vais pas me laisser complètement dépasser par elle ». Donc, poser un acte ou une parole de douceur, poser un acte ou une parole de service. Ce sont les deux, non pas les deux antidotes, mais les deux contrepoids à la colère. Et pareil pour la tristesse ou pour la peur. Finalement, les leviers spirituels sont à disposition. Ce sont des ressources qui sont données à chacun de nous, croyants ou pas.
Visage, Thierry Lyonnais.
Jean-Guilhem Zéry, dans vos conseils pour avancer dans cette vie profonde, il y en a vraiment qui vont faire sourire, qui vont interpeller, notamment quand on a cette image d'être un bon croyant, chrétien ou non, où il faut toujours être gentil, il faut toujours être positif. Vous avez un chapitre qui s'intitule « Refuser », savoir dire non. Et ça, comme conseil spirituel, on ne l'entend pas trop souvent, parce que l'image qu'on a, notamment chez les chrétiens, c'est le oui total, le oui absolu. Et vous vous dites, il faut savoir, parfois, dire non, refuser. Vous pouvez expliquer cela ?
Oui, c'est absolument essentiel. Essentiel. Quand je vous entends là, et en fait, je n'en fais pas mention dans mon livre, mais quand je vous entends là, association d'idées, je pense aux 10 commandements. Les commandements, c'est d'abord des noms. C'est non, tu ne tueras pas. Non, tu ne voleras pas. Non, tu ne piqueras pas la femme du voisin. Voilà. Et ainsi de suite. Hein. Non, tu ne porteras pas de faux témoignages. Donc, les 10 commandements, c'est d'abord des noms. Et en l'occurrence.
C'est autre chose, parce qu'on l'a pris souvent comme des interdictions. Comme des interdits. Là, oui, les noms dont vous parlez, c'est une façon noms qui sont de montrer une
limite.
Ouais.
Mais c'est une façon de montrer une limite. Mais de la même façon, refuser, c'est très important, votre remarque. Mais je la prends comme telle, c'est-à-dire, justement, le non qui peut être à certains moments, pour certaines personnes, non pas dans l'absolu, bien sûr, mais à certains moments, pour certaines personnes, un conseil spirituel, c'est parce que c'est nécessaire à la vie. En fait, si je dis oui tout le temps, à un moment donné, c'est juste plus possible. On peut se raconter des histoires. Mais si je dis oui à toutes les sollicitations qui me sont faites, soit d'invitations le soir, soit d'activités bénévoles, soit de dossiers qui me sont confiés, soit de gens qui viennent voir, ainsi de suite, je peux me raconter des belles histoires. Mais de toute façon, c'est juste pas possible. Et ça sera pas possible pour, en fait, au bout du compte, pour tout le monde, pour moi. Donc, dire non à certains moments est une nécessité justement au service de la vie. Pour le dire autrement, en fait, refuser, dire non, c'est dire non pour pouvoir mieux dire oui.
Mais oui, c'est pas facile à gérer ça, je pense, pour les chrétiens, où on leur a toujours dit qu'il fallait développer une certaine forme d'obéissance, et je pense notamment aux religieux. On leur a donné, et parfois ils ont dans leur vœu, l'obéissance. Donc obéissance veut dire dire oui, pas dire non. Oui. Il y a des religieuses et des religieux qui ne savent pas dire non.
Oui, et pas que des religieux et des religieuses.
Et bien sûr.
Mais quelqu'un, religieux ou pas, mais en particulier religieux ou religieuse, qui ne dit pas non, se trouvera de toute façon en difficulté, et très très rapidement. Mais en réalité, en fait, on en dit des noms. Vous prenez l'exemple, je trouve très intéressant, des religieux. Dans l'obéissance, en effet, on ne lui a pas appris à dire non. Mais vous avez bien dit, le religieux, vous l'avez rappelé, il a posé des vœux. En posant ses vœux et en les respectant, de fait, il dit plein de noms. Il dit non à une vie qui ne soit pas de pauvreté, il dit non à des relations sexuelles non continentes, et ainsi de suite. En fait, donc, même là, en fait, on dit tous des noms. On dit tous des noms, parce qu'en fait, on ne peut pas faire autrement. Le seul propos de nature conseil spirituel, c'est d'assumer ces noms. Et c'est ça qui est difficile, en réalité. Ce n'est pas de dire non, parce qu'on en dit tous des noms, en fait. C'est d'assumer ces noms, d'en être conscient et d'assumer ces noms, de les choisir. Et non pas pour le plaisir de dire non, c'est un, par sauvegarde psychique, et deux, pour justement choisir ces oui. Et que ces oui que l'on dise soient vraiment des oui qui correspondent à des vrais appels, en fait, de la vie. Et de fait, il y a plein d'interpellations, de sollicitations dans nos vies qui ne sont pas, finalement, des appels à la vie. Et en fait, c'est un enjeu de discernement, en réalité. Hein. Et mieux vaut dire des noms assumés à des choses qui ne sont pas porteuses de vie. Je ne parle pas de choses éthiques, profondes, etc. Je parle même du quotidien, des choses qui vont nous disperser, qui vont nous faire perdre du temps, des choses qui vont nous faire perdre de la densité, sur, au contraire, des choses qui sont absolument prioritaires, en fait, pour nous, pour notre conjoint, pour nos enfants, pour la famille, ainsi de suite, quoi.
Jean-Guilhem Guéry, tous ceux qui se plongeront dans votre vie, la vie profonde, hein, ça va être une vraie plongée dans les profondeurs de ce livre, vont trouver énormément d'entrées sur des sujets comme pleurer, rire. Mais finalement, quel est l'axe essentiel que vous avez voulu donner dans ce livre ?
L'axe essentiel, c'est que la vie spirituelle, ce n'est pas une affaire de spécialiste et ce n'est pas une affaire de temps particulier. C'est une affaire de vie ordinaire. C'est une affaire, elle se joue dans la trame de notre vie quotidienne et que tous, on est invités. Et j'insiste sur le mot d'invité. C'est-à-dire, le propre de l'invitation, c'est qu'on peut tout vivre, en fait, simplement sur le registre, en gros, corps-émotion, qui est la pente que, dans laquelle notre société nous pousse. On peut vivre aussi les choses pleinement. C'est aussi, justement, en mobilisant les leviers spirituels qui nous habitent tous, et pas simplement les moines, les religieux, etc., mais tous, on est tous dotés de leviers spirituels qui sont le détachement, l'abandon, la gratuité, la confiance, toutes ces choses qui nous apparaissent souvent présentées comme des valeurs ou comme des vertus ou comme des objectifs spirituels, voilà, en réalité qui ne sont rien de tout ça, sont juste en fait des leviers qui nous habitent chacun et que l'on peut choisir d'activer ou pas. Et plus je les active, plus je vais rentrer dans une expérience spirituelle. Et en fait, ça, c'est l'affaire d'une vie. Il n'est jamais trop tard, mais en fait, c'est un peu un entraînement, la vie spirituelle. C'est pas une révélation. Sauf pour quelques miracles, ok, enfin moi je personnellement c'est pas mon expérience, mais c'est quelque chose en fait, c'est un peu comme le sport, comme l'alimentation, la forme physique, c'est quelque chose qui se vit au quotidien.
Un mode de vie à vivre au jour le jour.
Une façon différente d'habiter sa vie quotidienne, une façon qui aura encore plus de goût.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Guilhem Guéry d'être venu nous partager cette vie profonde qui vous habite, on le sent avec votre passion, mais que vous venez de publier, nous expliquer dans ce livre que vous publiez aux éditions du CERF, La vie profonde, la santé spirituelle au quotidien. Puis je renvoie également pour tous ceux qui ont envie d'approfondir la connaissance d'une saine estime d'eux-mêmes, eh bien, se plonger dans le hors-série de Panorama sur l'estime de soi. Merci beaucoup Jean-Guilhem Guéry.
Merci Thierry, bonne lecture à tous.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.